bonjour à toutes et tous. Avant de commencer, je dois vous avouer que c'était assez difficile de préparer cette présentation, car comment résumer un livre de plus de près de 600 pages en 20 minutes, sachant qu'un certain nombre de choses qu'on trouve dans le livre se trouvent aussi dans le livre Action humanitaire et quai de la paix avec une autre perspective, et que François Bunion va présenter l'action du CICR à cette époque. Donc j'ai décidé vraiment de me focaliser sur un seul chapitre de ce livre, un chapitre qui me semble... Bon, c'est celui dont je suis le plus fier, qui est le plus long, qui est peut-être le plus discutable aussi, mais c'est sans doute la partie charnière de ma thèse. Donc comme tu l'as dit, le but de cette recherche était vraiment de mieux comprendre les interactions entre l'action humanitaire et la neutralité suisse à la neutralité du CICR à cette époque. Et dans cette optique, j'ai essayé d'avoir trois perspectives différentes. La première, c'était évidemment le CICR, qui est l'œuvre emblématique de la tradition humanitaire suisse, qui était aussi la plus grande œuvre à l'époque, mais de loin pas la seule, sachant que la Croix-Rouge suisse et que des centaines d'autres comités et organisations étaient actives à cette époque. Je me suis demandé en quoi le CICR qu'est-ce qu'il avait fait, en quoi il avait été neutre ou en quoi il ne l'avait peut-être pas été. Avant de monter un niveau en dessus et de m'interroger sur les liens entre l'humanitaire et la neutralité au niveau de la Suisse elle-même, donc que veut dire cette tradition humanitaire? Que veut dire le fait d'être engagé dans des œuvres humanitaires quand on vit dans un pays neutre comme la Suisse? Et dans une troisième partie, je me suis intéressé à cette même question, mais au niveau international. Donc en quoi est-ce que les œuvres charitables qui ont été menées depuis la Suisse ont eu une répercussion au niveau international, mais surtout en quoi c'est rentré dans un spectre de politique et de diplomatie internationale, avant de conclure avec deux chapitres qui s'intéressent successivement à une perspective plus transnationale. Donc en gros, en quoi est-ce que la Suisse était un cas particulier, ou est-ce que d'autres pays neutres en particulier, ont voulu... utiliser les œuvres humanitaires de la même manière que la Suisse, avant de conclure avec un chapitre qui s'interrogeait à la compétition, à la concurrence entre acteurs humanitaires. Là, je vous dis donc que dans le chapitre 6, j'en conclus que tous les pays neutres ont voulu utiliser l'argument humanitaire pour justifier leur neutralité, pour s'attirer les bonnes grâces des États-Unis en 1917 lorsqu'il a fallu trouver des solutions au ravitaillement. Et évidemment, tous ces pays sont entrés en concurrence afin de montrer qu'eux étaient plus humanitaires que les autres. Cependant, j'aimerais vraiment maintenant me focaliser sur le rôle de l'action humanitaire en Suisse même. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet qui revient très souvent dans les médias. On parle de la tradition humanitaire de la Suisse. Elle n'a pas été créée en 1914, évidemment. C'est une construction qui a commencé avec la création du CICR en 1863. Et elle s'est développée au fur et à mesure des conflits, comme par exemple la guerre franco-allemande de 1870. Mais la Première Guerre mondiale a joué un rôle assez important, dans la construction de cette identité humanitaire, car l'humanité a vraiment joué un rôle assez fondamental dans la cohésion de la société suisse à cette époque. J'ai essayé de l'aborder par le spectre de ce que j'appelle une culture de neutralité. Donc là aussi, de nouveau, on a l'impression que la Suisse est un pays neutre depuis toujours, que c'est presque inscrit dans notre ADN d'être neutre. C'est évidemment pas le cas, et la neutralité suisse a une très longue histoire avec des hauts et des bas. Mais pendant les recherches, et aussi en discutant avec toutes les personnes impliquées dans ce projet sur la Suisse pendant la Première Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'éléments constitutifs à la neutralité qui se sont particulièrement bien... présentés pendant la Première Guerre mondiale, donc ce que j'appelle des sortes de piliers de cette culture de neutralité qu'on a en Suisse. Le premier, c'est l'histoire, et le gouvernement ou les médias pouvaient facilement argumenter sur la longue histoire de la neutralité suisse, faisant de celle-ci un phénomène différent de certaines neutralités qui étaient plus contextualisées. On est neutre dans un conflit, on n'est pas dans un autre. Là, la Suisse pouvait dire, mais nous, on est neutre depuis toujours, ce qui n'est évidemment pas vrai, mais c'était un argument qui pouvait être utilisé. Ça donne de la légitimité dans le temps, évidemment. Un autre aspect, c'est le paysage. Pourquoi être neutre et que veut-on préserver? Il y a différentes choses. La première chose, c'est le paysage. C'est vraiment un élément clé de l'identité suisse. Et d'ailleurs, si vous allez visiter la salle du Conseil national de nos jours, au Palais fédéral, on voit une immense peinture qui représente un paysage, ce qui est plus ou moins unique, si ce n'est tout à fait unique, pour un pays d'avoir comme grand symbole la région du Grütli avec les montagnes, le lac, les prairies, etc. D'ailleurs, si ensuite vous continuez votre promenade dans la salle des pas perdus, on voit toute une série de peintures au plafond, dont une qui représente une infirmière avec une croix rouge. Et là, c'est sans doute aussi unique d'avoir au cœur même du pouvoir politique suisse le symbole de la croix rouge présent. Et un troisième aspect qui était assez important par rapport au paysage à l'époque, c'est cette idée de la Suisse comme île. Donc vous avez sûrement tous déjà vu des cartes postales, des peintures représentant la Suisse comme une île au milieu de la tempête. On en a beaucoup pour la Deuxième Guerre mondiale. Ça remonte même dans les représentations jusqu'au XVIIIe siècle. Mais pendant la Première Guerre mondiale, c'est aussi un aspect qui est extrêmement important. Donc par le paysage, par ses caractéristiques géographiques, la Suisse est un petit peu une île de paix au milieu de la guerre européenne. Le deuxième point que l'on veut préserver, c'est le système politique. Et là aussi, les autorités politiques et les journaux ont été très habiles pour présenter la Suisse comme étant un pays fédéraliste, démocratique et multiculturel. En gros, la Suisse représente un exemple pour l'Europe, alors que celle-ci est totalement entre-déchirée, alors que essentiellement les Français et les Allemands s'entretuent tout au long des lignes de front qui d'ailleurs finissent à la frontière suisse. C'est un argument qui est extrêmement intéressant pour montrer la différence de la Suisse par rapport aux autres neutres. La plupart des autres pays neutres sont des royautés comme l'Espagne, le Danemark, la Suède, alors que la Suisse est une vraie démocratie. Enfin, en tout cas, on l'a présentée comme telle, évidemment, elle était beaucoup plus imparfaite qu'elle l'est maintenant, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de vote. Mais c'était aussi un moyen de dire, regardez, on est la seule démocratie au cœur de l'Europe, quand bien même il y avait aussi un régime des pleins pouvoirs qui était présent. Et c'était un argument vraiment utilisé par rapport aux États-Unis, en leur disant, écoutez, nous on a des problèmes de ravitaillement, vous devez nous aider, ne serait-ce parce qu'on est la seule démocratie à vraiment survivre en ces temps difficiles. Et évidemment, l'aspect multiculturel était aussi mis en avant dans la mesure où des Suisses romands et des Suisses allemands arrivaient à cohabiter en toute harmonie, disait-on, même si ce n'était pas tout à fait le cas. Un autre aspect de cette culture de neutralité, c'est l'armée. Et très brièvement, c'est tout simplement parce que la neutralité suisse est défendue par une armée, donc les autorités peuvent jouer sur cet argument pour dire qu'on ne peut pas la violer aussi aisément que d'autres pays. Et le dernier point sur lequel je vais plus m'étendre, c'est tout simplement la question humanitaire. Pourquoi est-ce qu'on est neutre? Et les autorités et les acteurs humanitaires de l'époque ont répondu tout simplement pour qu'on puisse aider les victimes de la guerre. Donc l'action humanitaire donne du sens à la neutralité et elle donne du sens à la population suisse. Il y avait évidemment tout un certain nombre de motivations personnelles pour s'engager dans des œuvres charitables. Précisons tout d'abord qu'il y a vraiment eu un engagement qui allait en montant très vite au début de la guerre avant de redescendre au fur et à mesure que les difficultés s'amoncelaient pour la population suisse et que globalement ce n'était que les personnes qui avaient les moyens en temps et en argent qui ont pu s'engager sur la durée dans les œuvres charitables, à l'exception du CICR qui au bout d'un moment s'est mis à engager du personnel. Mais sinon c'était vraiment une activité réservée aux élites, sachant que pour une grande majorité de la population, les difficultés étaient telles qu'elles avaient bien d'autres soucis en tête. Ceci étant dit, il y avait différentes raisons qui pouvaient pousser à s'engager dans une œuvre charitable, que ce soit en tant que volontaire pour l'Agence internationale des prisonniers de guerre ou pour l'un des nombreux comités qui existaient un petit peu partout en Suisse. On en dénombre plus de 200 rien qu'à Genève, mais on les retrouve dans toutes les grandes villes. Le premier, c'est tout simplement la compassion, et si on prend la racine du mot, partager la souffrance de quelqu'un, c'est parce qu'on partageait la souffrance des victimes de la guerre, qu'on avait de la sympathie pour elles, qu'on voulait leur venir en aide. C'était aussi un moyen d'oublier ses propres peurs, et c'est assez difficile de l'imaginer maintenant, mais à partir de 1915, quand l'Italie entre dans le conflit, la Suisse s'est retrouvée pour la première fois totalement entourée par des pays belligérants. C'était un petit pays de 4 millions d'habitants encore, qui était dépendant de l'étranger pour son ravitaillement, que ce soit en charbon ou en nourriture. Et donc la population a eu des peurs très légitimes de souffrir de restrictions de pénurie trop importantes ou pire, d'être entraînée dans le conflit. Et donc en aidant les autres, d'autres personnes qui souffrent encore plus que nous, c'était un moyen de mieux vivre avec nos propres peurs. Et je vais juste citer une phrase que j'ai trouvée dans une brochure publiée par une petite œuvre locale à Genève en 1916. Et l'auteur dit « Faire œuvre utile pour de plus malheureux que soi, quel merveilleux dérivatif à nos inquiétudes et à nos craintes. » Et un peu plus loin dans la même brochure, on trouve la phrase suivante. Une chose qui nous rendait le travail pénible au moment où le charbon manquait en Suisse était le froid intense et l'impossibilité d'allumer le chauffage central. Les nuits étaient glacées et souvent nous avons travaillé en manteau et en fourrure, songeant pour nous encourager aux pauvres prisonniers qui, eux, n'avaient rien pour se couvrir. Donc voilà, effectivement, la situation était très difficile. Il y a eu des manifestations dès 1916, le rationnement à partir de 1917 seulement. Mais si l'on comparait la situation de la Suisse à celle de très nombreuses autres populations en Europe, les Suissesses et les Suisses pouvaient se sentir privilégiés et pouvoir malgré tout aider ces personnes encore plus en difficulté était une façon de dire ben, voilà, finalement c'est pas si mal. Aider les autres, c'est aussi un moyen de participer et de voir et de vivre la guerre. Et là, de nouveau, les moyens de s'informer étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. C'était essentiellement à travers la presse. Une presse belligérante qui était extrêmement contrôlée par la censure. Il y avait énormément de propagande. Donc le fait de voir directement des victimes de la guerre, c'était un moyen de mieux comprendre ce qui se passait. Et là, de nouveau, c'est peut-être difficile pour nous d'imaginer maintenant la France et l'Allemagne dans un conflit extrêmement meurtrier et la Suisse un peu au milieu, mélangeant des éléments culturels et la langue de ces deux pays. Et donc, le fait de voir passer, par exemple, les réfugiés français qui habitaient les zones occupées par les Allemands et qui ont été rapatriés vers les zones de la France libre à travers le territoire suisse. Il y en a plus d'un demi-million qui sont passés par la Suisse de Schaffhouse à Annemasse, puis ensuite de Schaffhouse à Évian. C'était aussi un moyen de voir les conséquences directes de ce conflit. Et il en va de même pour les prisonniers dès 1915, grâce à un travail conjoint du CICR et de la Confédération, des prisonniers qui étaient gravement blessés et totalement inaptes au combat ont pu être rapatriés vers leur pays d'origine, donc de nouveau en traversant la Suisse, d'ailleurs en passant par Genève, Fribourg, Berne, Schaffhouse, etc. Et la population s'est vraiment massée lors des arrêts en gare pour voir ces gens qui avaient vraiment vécu la guerre et pour voir vraiment les conséquences directes de ce conflit. C'était donc aussi une manière de participer. Et là, un aspect qui est tout à fait intéressant et qui est lié, pour revenir à la question de la neutralité, c'est qui est-ce qu'on veut aider et qui est-ce qu'on va aider. D'un point de vue purement pratique, c'est vraiment difficile de pouvoir aider tout le monde indistinctement, d'être neutre et impartial, ne serait-ce parce qu'il faut avoir des capacités logistiques assez impressionnantes. Donc le CICR pouvait le faire, car c'était une grosse organisation humanitaire, beaucoup plus petite que les Croix-Rouges nationales, mais quand même suffisamment grande pour le faire, alors que de très nombreuses œuvres ont décidé de concentrer leurs efforts vers des catégories très précises de population. Par exemple, aider les civils serbes, les Serbes étant vus comme des victimes innocentes de la guerre, aider les civils ou les enfants, plus particulièrement belges. Et là aussi, il y avait un très grand mouvement de sympathie essentiellement. Particulièrement en Suisse romande, mais pas que, envers les Belges. La Belgique, ce petit pays neutre, agressé par les forces allemandes, c'était évidemment assez facile de faire le parallèle avec la Suisse et de se dire, mais ça aurait pu être nous qui aurait été le champ de bataille entre ces grandes puissances. Il y avait d'autres comités qui allaient venir en aide aux enfants de l'Autriche-Hongrie, aux prisonniers de guerre allemands, aux prisonniers de guerre français. Et évidemment, la question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi choisir cette catégorie plutôt que l'autre? Et au-delà des aspects purement logistiques que j'ai déjà mentionnés, il y a la question des sympathies. Et pour beaucoup de romans, c'était assez logique de venir en aide à des Français, ou mieux encore à des Belges, car on partageait plus que des liens linguistiques, mais aussi une vraie affinité. Donc tous ces liens qui existaient entre la France et la Suisse ont exacerbé en quelque sorte la volonté de n'aider que certaines personnes, voire même au détriment d'autres personnes. Et pour certaines personnes, même si c'est rarement dit dans les documents que j'ai lus, c'était peut-être aussi un moyen de surmonter la culpabilité de ne pas se battre. On sait que la plus grande catégorie d'étrangers dans la Légion étrangère française était constituée de Suisses devant les Belges. Donc on voit que beaucoup de citoyens suisses ont senti le besoin d'aller se battre dans ce conflit. Et pour d'autres, Cette volonté de participer et de jouer un rôle a pu aussi être menée grâce à l'action humanitaire, grâce à l'engagement humanitaire, que ce soit en Suisse ou sur le terrain. Et je vais conclure avec un dernier aspect que j'ai brièvement évoqué avant, c'est celui de la cohésion nationale. Alors, on peut dire que les historiens basés à Genève et ceux à Fribourg n'ont pas forcément la même lecture de cette fracture entre Suisse romande et Suisse alémanique. À Fribourg, on a tendance à vraiment mettre en évidence le fossé, alors que, enfin, avec certaines nuances, alors que d'autres historiens sont un peu plus mesurés. Et il faut reconnaître que beaucoup de romands étaient en faveur de l'entente, alors que beaucoup d'alémaniques étaient en faveur des puissances centrales. C'est évidemment beaucoup plus facile pendant la Première Guerre mondiale d'être en faveur de l'Allemagne que d'être favorable aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, car le Deuxième Empire n'est pas le Troisième Reich, évidemment. Mais toujours est-il que ça a créé un certain nombre de débats dans la presse, les intellectuels se sont impliqués, et il y avait toute une gamme d'attitudes différentes entre les gens qui étaient farouchement pro-entente et qui ne comprenaient pas que la Suisse reste neutre après l'invasion de la Belgique ou après les attaques sur la ville de Reims, alors que d'autres Allemands, et par exemple le pasteur Édouard Blücher, qui est de la même famille qu'un ancien politicien suisse, considérait que c'était vraiment aux côtés de l'Allemagne qu'il fallait aller se battre et que les Romands n'étaient que des invités sur le territoire suisse. Entre ces positions extrêmes, il y avait toute une série d'autres opinions qui étaient visibles, et même si on était plutôt en faveur de l'Allemagne ou plutôt en faveur de la France, pour beaucoup de Suisses, le plus important, c'était de rester soudés et de surmonter les difficultés ensemble. Et en ce sens, l'aide humanitaire a été présentée comme ce qui unit les Suisses malgré leurs différences. La population suisse parle différentes langues, il y a quatre langues nationales, trois qui sont officielles. Elle est constituée de catholiques et de protestants, de personnes qui vivent en ville et d'autres qui vivent dans des régions plus rurales ou en montagne. Il y a évidemment toute une série de classes sociales différentes. Mais ce qui unit tous ces gens malgré les différences, c'est justement le fait que les Suisses sont naturellement humanitaires. Donc bon, on sait bien qu'on ne l'est pas naturellement, mais c'était un moyen très habile de la part des autorités de réunir toute la population et de se dire, bah, malgré nos différences, on partage des traits communs. Et c'était aussi une façon plutôt positive d'unifier la population et d'encourager la cohésion nationale. Pour conclure, voilà, j'aimerais aussi quand même dire que forcément, si tous les Suisses sont naturellement humanitaires, c'est donc une vertu patriotique et le bon Suisse, le bon patriote suisse va s'engager dans une œuvre comme la Croix-Rouge ou une œuvre qui ressemble. Comme je l'ai dit auparavant, c'était évidemment pas possible car la grande majorité de la population avait d'autres soucis, mais la chose a été présentée d'une manière assez englobante pour donner le sentiment que tout le monde participait à cette grande œuvre charitable de la Suisse qui a eu un effet très positif justement pour la cohésion nationale. Pour conclure, voilà, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on trouvera dans ce livre dont la lecture est quand même assez longue, mais moins que l'écriture quand même, je pense. J'aimerais quand même juste dire un mot sur Gustave Ador, sachant que ce sont les rencontres Gustave Ador et que la Fondation a rendu la publication de ce livre possible. En commençant cette recherche, je ne voulais pas du tout m'intéresser à ce personnage en particulier, car c'était vraiment une recherche sur la Suisse, sur le CICR, avec une perspective transnationale. Et au final, Gustave Ador apparaît environ 500 fois dans le livre. Alors, ce qui fait qu'en moyenne, il apparaît une fois par page, mais c'est juste une moyenne. Il y a des chapitres où il apparaît beaucoup moins, alors que dans le chapitre où je m'intéresse aux relations entre le CICR et la Confédération, il est omniprésent. Et c'est pour montrer que ce personnage qui est peut-être un peu oublié, ou en tout cas reste présent grâce au quai qui porte son nom, a quand même énormément marqué la Suisse de cette époque. Il a même, je ne vais pas dire pris en otage parce que le terme serait un peu fort, mais il a eu un impact très très fort à la fois sur le CICR et sur la politique étrangère de la Suisse. Et je me rappelle que lorsqu'il avait eu le colloque en 2017, François Bugnon m'avait posé la question suivante: est-ce que c'est le CICR qui a lancé une OPA sur la Confédération ou est-ce que c'est la Confédération qui a lancé une OPA sur le CICR? Sur le moment, je n'avais pas su répondre, mais avec le recul, je me dis que c'est Gustave Adorf qui avait lancé une OPA sur les deux. Il a réussi à marquer de son empreinte l'histoire de la Suisse à cette époque, mais aussi l'histoire du CICR. Et donc bah, maintenant, si vous allez vous promener au bord du lac, vous aurez de part et d'autre de la rade le quai Gustave Adorf et le quai Wilson. Donc on voit qu'un siècle plus tard, Genève est toujours marquée par cette époque charnière de l'histoire mondiale et de la Suisse. Et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Cédric Cotter et merci d'avoir conclu sur ces 500 occurrences de Gustave Adorf.